pour toi. Aujourd'hui, on lit pour toi
les As de l'info. Quatre faits surprenants sur les moustiques. Un texte de Camille Lopez, paru le 17 juin 2024 sur le site Les As de l'info. Avec l'arrivée du temps chaud, l'ennemi numéro un des amateurs de plein air est de retour, le maringouin. Savais-tu que des scientifiques étudient le comportement de cet insecte buveur de sang? Découvre quatre faits sur la bébite la plus insupportable de l'été. PS. On recommande de lire cet article dehors, près d'une chandelle à la citronnelle. Chloé Lahondaire est entomologiste, ce qui veut dire qu'elle est une pro des insectes. La semaine dernière, lors d'une conférence, elle a dressé un portrait super intéressant du moustique. Voici ce qu'on a noté pour toi. Madame Maringouin. Eh oui, les moustiques qui nous piquent sont des femelles. C'est parce qu'elles doivent manger une nourriture riche en protéines pour pondre leurs œufs. Et cette nourriture, c'est notre sang. Les mâles, eux, ont une diète assez différente. Elle est presque entièrement composée de sucre qu'ils trouvent dans le nectar des fleurs, dans les fruits et dans la sève des arbres. Une trompe multifonction. Le moustique nous pique avec sa trompe. Oui, oui, une trompe. Ce membre est un véritable couteau suisse. La trompe est équipée de 6 minuscules aiguilles qui ont toutes une fonction différente, comme couper la peau, trouver les veines et aspirer le sang, comme une paille. C'est presque technologique. Un parfum envoûtant. Te fais-tu piquer plus souvent que tes amis? Moi, oui. Il y a une raison. Notre odeur. Voici comment Madame Maringouin nous traque. Premièrement, quand on respire, on relâche un gaz qui s'appelle le dioxyde de carbone. C'est ce qui l'attire. Une fois qu'elle s'est rapprochée de nous, ses antennes nous repèrent grâce au parfum qu'on dégage. Madame a un faible pour plusieurs odeurs différentes comme celle des plantes, du savon et des pieds. Gare aux jeans. Madame Maringouin peut piquer à travers les vêtements qui nous collent à la peau, comme les jeans. Elle adore aussi les contrastes, les couleurs très différentes les unes des autres et les couleurs foncées. Si tu ne veux pas te transformer en festin à moustiques, porte des vêtements amples et de couleur pâle. Il est une fois des embouteillages au sommet du monde. Un texte de Marie Bernier, paru le 14 juin 2024 sur le site Les As de l'info. Il est une fois, à notre époque, une montagne que trop d'humains rêvent de conquérir. Everest est une très, très vieille montagne, bien plus vieille que l'humanité. Elle est née il y a plus de 45 millions d'années, quand deux continents sont très lentement entrer en collision. Depuis, ces deux croûtes de terre continuent de pousser l'une sur l'autre et chaque année, Everest continue de grandir de quelques centimètres. Si tant de gens rêvent de gravir Everest, c'est qu'avec ses 8 849 mètres, elle est la plus haute montagne de la planète. Atteindre son sommet, c'est trôner pour quelques minutes au sommet du monde. Quel exploit! Et quelle story Instagram ça fait! Ce rêve cause toutefois de plus en plus de soucis à Everest. Il y a 71 ans, deux personnes ont pour la première fois atteint son sommet. Ils étaient si petits sur le corps immense d'Everest qu'elle ne les a probablement même pas remarqués. Mais depuis, le nombre d'alpinistes qui s'attaquent à ces pentes ne cesse d'augmenter jusqu'à atteindre 600 cette année. Plusieurs dépensent des dizaines de milliers de dollars pour de l'équipement et pour embaucher un guide local habitué de la montagne. Mais tous n'ont pas nécessairement l'expérience et la forme physique nécessaires pour entreprendre une telle aventure. Il y a très peu de chemin jusqu'au sommet d'Everest. De plus, l'ascension n'est possible que quelques jours durant l'année. Il faut qu'il ne fasse pas trop froid, mais pas trop chaud non plus, pour éviter que la neige et la glace fondent. Cela veut dire que la plupart des alpinistes, expérimentés ou non, se retrouvent à peu près en même temps sur les sentiers, au point de carrément causer des embouteillages. Ça peut paraître drôle, mais en fait, les conséquences sont parfois tragiques. En raison de ce trafic, des alpinistes sont morts de froid. Le manque d'expérience de certains a aussi causé des accidents mortels. Sans parler des tempêtes et des avalanches qui tuent souvent des gens. En raison de sa popularité, Everest est aujourd'hui devenu à la fois un cimetière et un dépotoir. Les corps de 200 personnes disparues lors de différentes expéditions au fil des ans reposent toujours sur la montagne. Et on y retrouve plus de 50 tonnes de déchets éparpillés sur ces pentes abruptes. Pour diminuer la pollution, le gouvernement du Népal, le pays par lequel la plupart des alpinistes grimpent, envoie chaque année son armée faire le ménage. Il exige aussi désormais des alpinistes qu'ils rapportent avec eux leurs déchets et même leur caca. Mais il faudra encore bien du temps et des efforts avant qu'Everest retrouve sa propreté millénaire. Il faudra probablement aussi limiter le nombre de gens qui essaient d'atteindre le sommet du monde. Que penses-tu de cette situation? Aimerais-tu te retrouver au sommet du monde? Entrevue. Il prononce un discours historique dans sa langue. Un texte de Clémence Tessier-Laliberté, paru le 18 juin 2024 sur le site des As de l'Info. Le 28 mai dernier, le député Sol Mamakwa a marqué l'histoire au Parlement de l'Ontario. Comment? En prononçant un discours dans sa langue autochtone maternelle, l'Ojikri. C'était la première fois qu'un politicien s'exprimait dans cette salle dans une autre langue que l'anglais et le français. On a discuté avec lui de ce moment important. Une première. Une centaine de personnes étaient présentes à l'Assemblée législative de l'Ontario le 28 mai dernier pour entendre les mots de Sol Mamakwa. Même sa mère était présente, ainsi que ses frères et sœurs. Durant son discours de 10 minutes, le député a parlé de l'importance de mettre en valeur et de faire vivre les langues autochtones. Selon lui, plusieurs d'entre elles pourraient disparaître. J'étais stressé avant de parler. J'ai presque eu un trou de mémoire. Finalement, tout s'est bien passé, raconte-t-il aux As de l'Info en riant. Et l'émotion était bien présente dans la salle. Ce n'est pas tant ce que j'ai dit qui a ému les gens, mais plutôt la langue dans laquelle je l'ai dit, nous explique-t-il. Pour ma communauté, la langue est une grande partie de notre identité, on en est fier. L'importance d'être fier de sa culture. Sol Mamakwa fait partie de la première nation de Kingfisher Lake en Ontario. Il est un survivant des pensionnats autochtones. C'était des établissements où les enfants autochtones étaient envoyés pour effacer leur culture. Ils y étaient souvent maltraités et parfois mouraient par manque de soins. Tout ça a duré de 1831 à 1996. Dans les pensionnats, il était interdit de parler dans sa langue autochtone. Les jeunes qu'il faisait étaient punis. Malgré tout, le jeune Sol a toujours été fier de sa culture. C'est pour cette raison qu'il a tenu à livrer un discours en Ojikri au Parlement, confie-t-il. Je l'ai fait pour les gens qui ont été dans les pensionnats et qui n'avaient pas le droit de parler leur langue, pour ceux et celles qui n'ont jamais arrêté de la parler et pour les jeunes qui sont en train de la perdre, en espérant que ça leur donne envie de la réapprendre, a-t-il déclaré aux As de l'Info. Seul Mamakwa a d'ailleurs un petit mot à transmettre aux As. Soyez fiers de qui vous êtes. Soyez fiers d'où vous venez. Les jeunes, vous êtes les acteurs et actrices du changement, quelle que soit la province d'où vous venez ou votre pays d'origine. Toi, quelle est la chose qui t'apporte le plus de fierté? Céline Dion nous parle de sa maladie. Un texte d'Émeric Epo, paru le 18 juin 2024 sur le site Les As de l'Info. Le dernier spectacle de Céline Dion remonte à 2020. Pourquoi? Elle est atteinte d'une maladie rare, le syndrome de la personne raide. Dimanche soir, TVA a diffusé une entrevue exclusive avec la chanteuse québécoise âgée de 56 ans. Cela faisait 4 ans qu'elle n'avait pas parlé à un média québécois. On te résume l'entrevue. Tu connais sûrement Céline Dion pour ses nombreux succès. « My heart will go on »,« Pour que tu m'aimes encore »,« I'm alive »,« J'irai où tu iras » et bien d'autres encore. Céline, c'est une star connue à travers le monde. Mais dans les dernières années, elle a annulé de nombreux concerts en raison d'une maladie. Le syndrome de la personne raide. C'est une maladie qui entraîne une rigidité des muscles accompagnée de douleurs. Dans l'entrevue qu'elle a donnée à TVA, Céline raconte qu'elle a commencé à sentir des effets de cette maladie en 2008. Au départ, elle ne savait pas de quoi il s'agissait. Pendant longtemps, Céline continuait de performer sur scène, de faire des tournées, et ce, malgré les douleurs et la fatigue. Il aura fallu plusieurs années avant qu'elle sache de quoi elle souffrait. Et elle a gardé le secret jusqu'en 2022. Cette année-là, elle a annoncé son diagnostic à la planète. Les années ont passé et je ne pouvais plus vivre avec le mensonge envers le public, moi-même, les enfants. Je ne pouvais plus mentir aux fans, a-t-elle déclaré à l'animateur Jean-Philippe Dion de TVA. 17 ans de panique. Un des moments forts de l'entrevue, c'est lorsque Céline parle de son angoisse au quotidien. « Je ne pouvais plus chanter, marcher. Je me tenais sur tous les fauteuils de la maison, les comptoirs. Ce n'était pas vivre, pas mourir. C'est pire que ça. » Ça fait maintenant environ 17 ans que Céline vit avec cette maladie. 17 années très compliquées pour elle et ses proches. Céline nous parle aussi de son quotidien et comment elle fait pour se sentir mieux. Tous les jours, elle est suivie par un physiothérapeute ainsi qu'une équipe de spécialistes. Elle fait beaucoup d'exercices de rééducation pour faire bouger ses muscles. Elle entraîne aussi sa gorge et ses cordes vocales pour pouvoir chanter de nouveau. Bientôt un retour sur scène. Céline Dion espère pouvoir retrouver la scène et surtout ses fans bientôt. Mon retour sur scène, ça va se passer. C'est pour ça que je travaille super fort. Pour le moment, la chanteuse n'a pas annoncé de date, mais elle espère que ce sera le plus tôt possible parce que chanter devant son public lui manque énormément. Elle conclut d'ailleurs l'entrevue en s'adressant à ses fans. « Je vous aime. » Et j'ai super hâte de vous voir. Prévu le 25 juin, le documentaire « Je suis Céline Dion » montrera son quotidien et sa lutte contre cette maladie. Il sera disponible sur la plateforme Amazon Prime. Et toi, es-tu un fan ou une fan de Céline Dion? sport en mutation. Plongeons dans un monde en pleine transformation. Un dossier paru en juin 2024 dans le magazine Curium. Marathon pour l'inclusion. À travers le sport, les athlètes luttent pour l'égalité des sexes et des minorités marginalisées, un beau mais long marathon. Les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 marqueront un tournant, celui de la parité totale. On comptera autant de femmes que d'hommes dans les épreuves. Une première. Pendant des siècles, les femmes ont été écartées des milieux sportifs. Trop fragiles, prétendait-on. Il fallait que leur corps reste fin et gracile, et surtout qu'elles fassent des enfants. Une femme à vélo, au 19e siècle en Angleterre, c'était impensable. En 1896, le baron Pierre de Coubertin fait renaître les Jeux olympiques antiques dans leur version moderne. Le rôle des femmes se limite alors au couronnement des vainqueurs sur scène. L'édition parisienne de 1900 accueille pour la première fois des athlètes féminines, 22 sur 997. Il faut attendre 2012 pour voir des femmes dans toutes les disciplines. L'habit fait le moine. Des athlètes féminines se dressent contre le code vestimentaire imposé par leur discipline sportive, dénonçant le caractère inadapté ou sexiste de ces tenues. Au dernier tournoi de Wimbledon, les joueuses de tennis étaient autorisées à porter des shorts foncés sous leurs traditionnels vêtements blancs. Ce nouvel assouplissement vise à accommoder les athlètes pendant leurs règles. À la Coupe du monde 2023, les joueuses de soccer ont aussi troqué les shorts blancs pour les bleus. En 2021, au championnat d'Europe, l'équipe norvégienne de handball de plage s'est rebellée en portant un short à la place du bikini imposé. Résultat, une amende de 1500 euros, environ 2200 dollars canadiens. Face au tollé suscité par la décision, la Fédération internationale de handball a fini par modifier son règlement. Les shorts sont maintenant autorisés. Dans une compétition au championnat d'Europe de 2021, la gymnaste allemande Sarah Voss s'est présentée dans un justaucorps couvrant intégralement ses jambes. Elle voulait ainsi lancer un message contre la sexualisation du corps des athlètes féminines. Abat les stéréotypes. Les femmes compétitionnent maintenant dans des disciplines considérées comme des chasses gardées masculines. Par exemple, le hockey, la boxe ou le tir. Malgré tout, il reste du travail à faire pour éliminer les stéréotypes de genre. Ainsi, on entend encore parler de sport de gars et de sport de filles. Certaines disciplines font davantage appel à la force physique, à la rapidité ou à l'agressivité, des attributs souvent associés à la masculinité. Au contraire, la gymnastique et le patinage artistique sont associés à l'agilité et à la grâce, supposément féminines. Un gars sera traité de fif s'il pratique un sport connoté féminin, une forme d'homophobie. À l'inverse, dans les sports typiquement masculins, les filles ont peu de choix d'équipe ou de ligue, observe Lou Saint-Pierre du Laboratoire de recherche pour la progression des femmes dans les sports au Québec, Lab Pro-Femmes à l'Université Laval. Il y a toujours cette croyance que les garçons sont naturellement meilleurs en sport que les filles. On s'intéresse au sport masculin et on le valorise davantage. Une course à obstacles. Le milieu sportif devient de plus en plus inclusif pour les groupes minoritaires. Dans plusieurs écoles, par exemple, les coachs n'interpellent plus leur équipe par « les gars » ou « les filles ». Avec les athlètes, on est plus neutre. Les personnes non-binaires sont aussi de la partie. Certains centres sportifs et établissements d'enseignement offrent des vestiaires non-genrés pourvues de cabines et de douches individuelles. Ces installations sont plus accueillantes pour les personnes non-binaires. Elles permettent également aux personnes avec un handicap d'être accompagnées d'un ou d'une aidante du sexe opposé. Un centre de sport queer a même vu le jour en 2022 à Montréal. Mouvement Infinity, dans le quartier Verdun. Du nouveau chez les pros. En avril, le Centre Bell a accueilli une foule record pour un match de hockey féminin. Plus de 21 000 personnes ont applaudi les joueuses de la nouvelle ligue professionnelle LPHF. L'été dernier, la Coupe du monde de soccer féminin a aussi connu des records d'assistance. Néanmoins, dans le sport de haut niveau, l'écart reste énorme entre les ligues masculines et féminines. Selon le rapport 2023 du Conseil du statut de la femme, le financement, les salaires et la couverture médiatique des matchs sont beaucoup plus modestes chez les femmes. Dans les médias, le sport féminin est de 10 à 20 fois moins présent que son équivalent masculin. C'est un cercle vicieux. Moins de temps d'antenne signifie moins de chances de susciter l'intérêt de l'auditoire et de présenter des modèles aux athlètes de la relève. L'ancêtre de la LPHF, la Ligue canadienne de hockey féminin, LCHF, n'a versé aucun salaire à ses joueuses de 2007 à 2017, puis un salaire de 2 000 à 10 000 par saison jusqu'à la dissolution de la Ligue en 2019. En comparaison, les joueurs de la LNH, Ligue nationale de hockey, gagnaient un salaire minimum de 650 000 $ en 2018-2019. Même si elles sont encore loin du salaire des hommes, les joueuses de la nouvelle Ligue féminine bénéficient de conditions nettement meilleures qu'avant. Le salaire moyen est de 75 500 $ et elles ont négocié la toute première convention collective de l'histoire des ligues féminines en Amérique du Nord. Mystérieux fond marin. Un texte de John Crossingham, paru en juin 2024 dans le magazine Les Débrouillards. Au fond de l'océan, il fait noir et froid. Pourtant, ça grouille de vie autour des sources hydrothermales. Les sources hydrothermales sont des ouvertures dans le plancher océanique par lesquelles jaillit de l'eau. Cette eau peut atteindre une chaleur extrême de 400 degrés Celsius. En plus, elle est remplie de sulfure, des substances chimiques très toxiques pour la plupart des êtres vivants. Mais pas pour tous. Plonge avec nous pour découvrir ce secret bien gardé des fonds marins. Pourquoi aussi chaud? Les sources hydrothermales se trouvent souvent près de volcans ou de fissures dans la croûte terrestre. Elles sont donc à proximité de roches fondues ou de magma, ce qui réchauffe l'eau. D'où vient l'eau? L'eau des océans fuit par des fissures dans la croûte terrestre. Elle circule alors dans des voies souterraines où elle est réchauffée par une poche de magma, puis poussée à sortir par une source hydrothermale. Au plus profond, beaucoup de sources hydrothermales se situent à 2500 mètres sous la surface de l'eau. C'est l'équivalent de 5 fois la hauteur de la tour CN à Toronto. Aucune lumière ne s'y rend. On remonte. Autour des sources hydrothermales, on trouve de grandes structures appelées cheminées. Elle se forme lorsque les minéraux qui remontent avec l'eau chaude durcissent au contact de l'eau glacée. Fumeur blanc. Comme ces sources sont plus éloignées de la chaleur du magma, l'eau qui en sort n'atteint que 100 degrés Celsius. Les fumeurs blancs rejettent principalement des minéraux comme du barium, du calcium et du silicone qui produisent une fumée blanche. Fumeur noir. Ces sources se trouvent juste au-dessus de poches de magma. Elles produisent beaucoup plus de chaleur et forment une fumée noire. L'eau qui s'en échappe transporte du méthane et des sulfures. Ces substances sont toxiques pour nous, mais essentielles pour les êtres vivants autour de la source. Une question d'énergie. La plupart des formes de vie tirent leur énergie du soleil. Les plantes font de la photosynthèse. Elles transforment la lumière solaire en énergie sous forme de glucose, sucre. Elles sont ensuite mangées par les herbivores qui sont à leur tour mangés par les carnivores et ainsi de suite. Sur le plancher océanique, par contre, il n'y a aucune lumière solaire ni photosynthèse. Pour avoir de l'énergie, les organismes qui vivent près des sources hydrothermales font donc de la chimiosynthèse. Ils utilisent le méthane et les sulfures, habituellement toxiques, pour fabriquer les glucides nécessaires à leur survie. Gros plan. La vie ici et ailleurs. Depuis leur découverte en 1977, les sources hydrothermales ont changé la façon dont les scientifiques comprennent la vie dans les abysses. Selon certains biologistes, la vie sur Terre aurait peut-être commencé autour de sources semblables. D'autres pensent qu'il y a des sources hydrothermales sur une lune de Jupiter, Europe, et qu'il s'y trouverait peut-être des formes de vie extraterrestres.
C'était Gilbert. À une prochaine lecture.
C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dans 2 semaines. Merci à toute l'équipe.